Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Catherine Leroux. Bonjour Catherine, comment ça va?
Ça va très bien, Amélie, et toi?
Très, très bien. Très contente de te recevoir à mon micro. Alors, je vais te présenter mes auditeurs. Alors, tu as exercé plusieurs métiers, dont celui de journaliste. Maintenant, tu es autrice et éditrice. Tu as publié en 2011 ton premier roman, La marche en forêt, finaliste au Prix des libraires du Québec. Le mur mitoyen, paru 2 ans plus tard, a été couronné du prix France-Québec et sa version anglaise a été en lice pour le prix Giller. Publié en 2015, Madame Victoria a remporté le prix Adrienne Choquette et j'ai vu que la version poche chez Asphalte a été publiée en septembre 2023.
Oui, tout à fait, oui.
C'est le fun, alors les gens peuvent découvrir Madame Victoria un peu partout à travers la francophonie.
Oui, c'est drôle comment la vie des livres, des fois, est pas comme une vie humaine, donc un livre qu'on pensait vieux et fini sur le territoire où il a paru, ben, il y a une deuxième vie, ressuscite. En fait, les vies des livres, c'est plus comme des vies de chat.
C'est vrai. C'est une belle image. Et tu as signé aussi plusieurs traductions, dont celle de « Nous qui n'étions rien » de Madeleine Tien, pour laquelle tu as reçu le prix du gouverneur général. Et prochainement, je crois que tu vas faire la traduction de Sarah Bernstein, qui a remporté le prix Giller cette année. Là.
Oui, avec Study for Obedience. Tu es bien, bien informée, Amélie. Je suis en plein là-dedans. Là.
Et comment tu trouves ça, faire la traduction de d'autres auteurs? C'est complètement un autre métier?
Oui et non, c'est sûr qu'il y a des, on va dire dans la boîte à outils d'un auteur ou d'une autrice, il y a des éléments qui sont très pertinents pour la traduction. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que c'est très chronophage la traduction, puis j'essayais plus de me concentrer sur mes propres projets. Mais comme c'est un petit livre et que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce livre-là, je me suis lancée.
Ha ha! Alors, on devrait pouvoir lire ça quand, quoi, d'ici...
Un an, peut-être.
OK.
Ouais. Puis, ce qui est le fun avec ce livre-là, c'est que c'est un style d'écriture qui est tellement à l'opposé de mon approche, qui est très volontairement empoulé, presque complexe. Puis, tout ça fait partie de la voix d'une narratrice qui est très étrange. Fait que j'ai beaucoup de plaisir avec ça.
Et tu es également éditrice depuis janvier 2020 chez Alto, ta maison d'édition. Est-ce que ton travail d'éditrice teinte le travail d'autrice?
Oui. Oui, les deux s'informent, je dirais, mais je pense que la rigueur que j'essaie d'appliquer à mon travail d'éditrice auprès des autres auteurs, ben là je commence à l'appliquer dans mon propre travail aussi. Je pense que mon dernier roman est beaucoup plus tight, on va dire en bon français, que les précédents à cause de ça.
Et comment tu arrives à allier les deux? Mettons, le matin, c'est de l'édition, puis l'après-midi, c'est de l'écriture romanesque?
C'est le contraire. Je fais mon travail d'écriture le matin parce que c'est le matin que j'ai l'impression d'avoir l'esprit le plus disposé à la création, mettons. Puis l'après-midi, je fais de l'édition, mais... C'est très difficile de faire les deux dans une même journée. Je le fais quand j'ai pas le choix, mais je préfère essayer de pas faire se chevaucher les projets éditoriaux puis créatifs parce que c'est je finis mes journées puis j'ai plus de cerveau dans ce temps-là.
Fait qu'un truc que tu fais, c'est que tu essaies de te garder quelques jours, voire quelques semaines de libre pour vraiment être capable d'écrire?
Exact. Puis, tu sais, de l'édition, j'en fais pas tout le temps. Il y a pas tout le temps un roman entre mes mains. Parfois, je fais d'autres types de tâches un petit peu moins, qui exigent un peu moins de concentration pour Alto. Fait que j'essaie d'enligner ça avec les périodes d'écriture.
Et en 2020, tu as publié L'Avenir. Après 5 ans d'attente, les lecteurs étaient contents de te retrouver. Et le roman reçut le prix Jacques Brossard et sa version anglaise a été couronnée récemment au Canada Reads. Et c'est Heather O'Neill qui l'a défendu parce qu'elle adorait ton roman et elle a réussi à convaincre tout le monde.
Oui, oui, elle a fini par gagner. Ça a été... C'était une expérience, cette affaire-là. Au Québec, on a l'habitude du combat des livres, qui est très, très chouette à écouter. Mais CBC, au Canada anglais, ils ont vraiment développé encore, ils ont poussé le concept encore plus loin. Ils en ont vraiment fait presque une télé-réalité. C'est télévisé, c'est en direct. C'est très stressant.
T'as assisté à tous les enregistrements?
Presque tous. Mais les deux derniers, oui, absolument, en direct, là. Moi, je suis quelqu'un qui... je trouve que je suis quand même bonne pour rester détachée de tout ce qui est les concours, les prix, être finaliste, gagner, pas gagner. J'essaie de garder une distance avec ça parce que je pense que sinon, on se rend fou puis on est très malheureux comme auteur. Puis je suis toujours parvenue, fait que je pensais que ça serait la même chose avec Canada Reads. Et là l'effet télé-réalité m'est vraiment tombé dessus là. J'étais vraiment stressée, je pensais à rien d'autre. Tu sais, c'était comme, puis j'en ai parlé avec Heather, puis elle, de l'intérieur, elle l'a vécu exactement comme ça aussi, comme tous les autres panélistes. C'est comme si tout d'un coup, ça devenait une question de vie ou de mort, alors que, ben c'est important, les livres, là, mais il n'y a pas de quoi il y a pas de quoi en faire des crises de panique.
Moi, je l'avais croisée quelques semaines avant l'événement, puis elle était stressée, puis elle se préparait, puis elle voulait être bonne, puis elle voulait te rendre honneur.
Oui, elle s'est beaucoup préparée, elle a vraiment travaillé très fort, puis je trouve que ça a porté fruit, là. Elle a été excellente d'un bout à l'autre du concours.
Ben tant mieux, parce que ça a fait découvrir peut-être ton livre au Canada anglais, là. Alors, on souhaite que le plus de gens possible le lisent, et il est également disponible en France, ce livre-là.
Oui, tout à fait, il est sorti avant Madame Victoria, donc il y a 2 ou 3 ans, là, je ne sais plus la date exacte, je dirais 2. Donc oui, ça aussi c'est un livre qui voyage puis qui a plus qu'une vie.
Et la dernière fois que je t'avais reçu à mon micro, tu nous parlais possiblement d'une série avec l'avenir scénarisée par Anaïs Barbeau-Lavalette, 6 épisodes de 60 minutes. Est-ce que c'est encore dans le travail?
C'est encore en cours. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je promets que je vais partager tout changement dans ce dossier-là, parce que j'ai bien hâte moi aussi de voir qu'est-ce qui va arriver avec
et
ça.
Et je sais que toi, tu travaillais sur la scénarisation du Mur mitoyen, mm-hmm, avec Annie Pascal, également 6 épisodes de 60 minutes. Êtes-vous encore là-dedans?
Ah, ça a changé beaucoup, là. Je pense qu'on est rendu à 10 épisodes. Oui, on est en attente d'une réponse d'un diffuseur.
Ah, on se croise.
C'est long.
C'est très long, hein?
C'est la télévision, puis le monde du cinéma, c'est complètement différent du monde éditorial où le temps est long, le temps d'écrire un roman, le temps de l'éditer, les délais à l'impression, tout ça, mais c'est rien comparé à quel point il y a beaucoup d'étapes, en fait, beaucoup plus d'étapes en télévision, beaucoup plus de gens qui doivent donner leur aval, donc on s'accroche et on est patient.
Oui, non, c'est ça, puis c'est complètement un autre métier, la scénarisation, puis en même temps, comparativement au roman, t'es pas mal la reine de ce que tu fais, il n'y a pas de budget respecté.
Exact.
Tandis que les séries, c'est beaucoup plus complexe.
Il y a beaucoup plus de contraintes, il y a beaucoup plus de gens qui ont leur avis à donner et qui ont du poids sur les décisions qui vont être prises. Puis moi, je suis encore en apprentissage, mais tu sais, un certain nombre de personnages, au-delà d'un certain nombre de personnages, ben là, ça coûte plus cher, puis là, on pète le budget. Fait qu'il faut faire attention. Toutes ces considérations-là, comme simple téléspectateur, on n'en a pas idée. Puis c'est vraiment une fois qu'on commence à travailler avec des producteurs, avec des diffuseurs, qu'on réalise à quel point il y a beaucoup de variables qui rentrent, mm-hmm, en ligne de compte et qui ne relèvent pas que des questions artistiques ou du storytelling. Tu sais, il y a vraiment beaucoup d'autres facteurs.
Mais on croise très fort nos doigts pour ces deux séries-là. J'espère pouvoir les voir un jour à l'écran. Et là, tu viens aujourd'hui à mon micro pour nous présenter ton 5e roman, Peuple de verre, une uchronie, qui se passe dans Montréal, où à Montréal, c'est rendu difficile de se loger. C'est presque devenu un luxe. Et Sidonie, une jeune journaliste frondeuse, va mettre en lumière la vie dans les campements de sans-abri et va enquêter sur d'étranges disparitions jusqu'à ce qu'elle se retrouve, elle, de l'autre côté du miroir, dans un lieu hors du monde où on héberge celles et ceux qu'on appelle désormais les inlogés. Dans cette institution où les pensionnaires sont et doivent fournir un travail pour lequel ils sont peut-être rémunérés ou peut-être pas, et dont ils sont peut-être captifs ou pas. Et la seule échappatoire qu'a trouvée Sidonie, c'est l'écriture. Elle qui écrivait comme journaliste, c'est son moyen à elle d'exutoire, de pouvoir réfléchir sur cette situation-là qui est assez complexe, là.
Oui.
Et moi, je te poserais comme première question, d'où t'es venue l'inspiration de ce livre-là?
Il y a deux choses. La première, c'était que j'avais envie d'écrire sur la vérité, le mensonge et où s'articule, où se situe la fiction à travers ça. Puis j'ai choisi un personnage de journaliste justement parce que évidemment la vérité est tellement importante en journaliste et pourtant il y en a eu des fraudes journalistiques, il y a eu des fraudes qui étaient le fruit de, on va dire, d'une intention de tromper vraiment de la part du journaliste, puis d'autres qui étaient pas tant des fraudes que des erreurs ou des fausses nouvelles qui ont pénétré la sphère médiatique, puis c'est de plus en plus une question, les fake facts, les deep fakes, tous ces mots anglais qui ont en commun le mot fake.
Et des fois, c'est dur pour un journaliste, ils savent qu'il se passe quelque chose, mais ils sont pas capables de le prouver.
Exactement, on peut pas écrire n'importe quoi, on peut pas écrire sur la base de rumeurs, on peut pas écrire tant qu'on n'a pas quelque chose sur quoi s'appuyer, surtout si c'est une nouvelle qui a une portée un peu plus dérangeante, scandaleuse, etc. Donc, c'est ça. D'une part, j'ai voulu mettre ça en scène, puis ces questions-là, puis creuser un peu là-dedans. Tu sais, j'ai commencé à concevoir ce livre-là. Donald Trump est encore président des États-Unis. On entendait toutes sortes d'affaires. On a commencé à entendre parler des usines à trolls. Il y avait un paquet de monde qui croyait qu'il y avait un personnage Q qui livrait des prophéties. Là, tu sais, on était vraiment en plein délire. Pas qu'on l'ait plus tant que ça aujourd'hui, mais bon, on a atteint un sommet à ce moment-là. Et d'un autre côté, ben c'était tout ce que j'ai vécu moi-même par rapport au logement et tout ce que j'ai observé autour de moi. Je sais même pas si la crise du logement est encore un terme qui décrit bien ce qui se passe, parce que c'est beaucoup plus que ça ce qu'on vit. Des évictions de masse, une instabilité, une insécurité profonde et constante de la part de beaucoup de gens qui sont locataires.
Ben presque tout le monde que je connais qui sont locataires ont tous peur d'un jour de recevoir une lettre.
Puis là, avec la hausse des taux d'intérêt, même les propriétaires, certains propriétaires se sont retrouvés dans des situations où ils pouvaient plus payer leur hypothèque. Donc, ça a précarisé beaucoup de monde, ça aussi. Et évidemment, l'itinérance. J'annonce pas une grande nouvelle à personne en disant qu'il y en a de plus en plus à Montréal. Moi, j'habite dans un quartier où j'en avais jamais vu. C'est un quartier quand même assez périphérique. Il y avait pas beaucoup d'itinérants. Il y avait pas beaucoup de mendicité non plus. Maintenant, c'est à chaque coin de rue. On a beaucoup de grands parcs dans Annecy. Il y a des gens qui ont commencé à s'installer pour dormir là. Mm-hmm. Une espèce de petit abri semi-permanent, on va dire. Et
il y en a partout là. Moi j'habite dans Rosemont, puis partout. Presque à chaque coin de rue, on voit une tente ou on voit des gens qui sont assis par terre qui quêtent.
Puis partout où on voyage aussi, moi j'ai passé une partie de l'automne dans plusieurs villes du Canada, j'ai voyagé en France, je parle à des gens qui sont allés, j'ai voyagé au Portugal aussi récemment, je parle à des gens qui sont allés ailleurs, c'est partout. Il y a des émeutes en Irlande en ce moment à cause de ces questions-là, les questions de logement. Donc, puis je pense que ce qui a vraiment mis le feu aux poudres pour moi, c'est quand on avait commencé à entendre parler des camps qui s'était développé près de Notre-Dame, puis à d'autres endroits un peu plus à l'ouest aussi, et que là, la ville a fini par les démanteler pour des raisons qui ont du sens. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'il peut arriver des accidents puis des choses malheureuses, mais en même temps, je sais pas qu'est-ce qu'on pense qui va arriver quand on démantèle un camp. Il y aura pas plus de logements pour ces gens-là. Il y a personne qui veut à tout prix vivre dans un camp de sans-abri. Et je crois que dans le nombre, il y a une certaine protection quand même, parce qu'on n'est pas tout seul en dessous d'un viaduc à la merci de tout.
L'isolement aussi.
Ça brise l'isolement, ça permet de mettre en commun certaines ressources, etc. Donc, je vois cette chose-là augmenter de façon exponentielle et je vois qu'on n'arrive pas à trouver des solutions qui sont à la mesure du problème. Et c'est vraiment ça qui a été le point de départ de ce roman-là puis de cette histoire-là sur les gens que j'appelle les inlogés, parce que, bon, plus un problème est grave, plus on trouve un euphémisme. Aux États-Unis, on utilise déjà le mot « unhoused » au lieu de « homeless ». C'est unhoused, c'est délogé, c'est inlogé, comme le mot que j'utilise dans le roman.
Si tu me permets, Catherine, on s'arrête et au retour, je veux qu'on continue de parler de Peuple de verre.
Merci.
Ici Mélissa Perron, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
Je suis toujours en compagnie de mon autrice invitée de la semaine, Catherine Leroux, pour parler de ton cinquième roman, Peuple de verre. On en parlait dans ce roman-là, on aborde justement l'itinérance, mais aussi les gens qui se font sortir des logements où ils habitent. Et souvent, même si on est de la classe moyenne, ça coûte extrêmement cher. Moindrement qu'il t'arrive quelque chose, un peu comme Sidonie dans le roman, on se retrouve dans la rue, là.
C'est ça qui est inquiétant. Je pense que là, on se rend compte que auparavant, l'itinérance, c'était beaucoup une question de... Il y avait un autre enjeu dans la vie de la personne. Il y avait un problème de jeu ou de dépendance ou de santé, etc. Maintenant, on a beau travailler à temps plein, avoir tous ses moyens physiques ou mentaux, avoir une certaine stabilité, une capacité à travailler, on est tous à une séparation, une COVID longue, une débarque, une malchance quelconque de se retrouver sans logement ou dans un logement qui convient pas du tout à notre mode de vie. Je pense par exemple aux grandes familles qui ont tellement de misère à se reloger dans des logements mm-hmm. qui ont suffisamment d'espace pour tout le monde.
Et à l'époque, c'était quoi à peu près, je dirais, un tiers de ton revenu qui va pour l'hébergement? Maintenant, je pense que c'est comme 60-65%.
Oui, en tout cas, dans mon cas, c'est beaucoup plus que la moitié. Puis je pense que c'est le cas de la plupart des gens que je connais qui ont dû se reloger dernièrement, là. Sinon, les autres s'accrochent tous à leur appartement pas cher, des gens qui vivent là depuis 20 ans. Mais en même temps, ces gens-là sont conscients qu'ils sont encore plus vulnérables aux expulsions parce qu'ils sont pas rentables. Donc oui, c'est quelque chose qu'on vit collectivement. Tu sais, c'est drôle parce que c'est une angoisse qui est multiple puis qui est partagée entre ce qu'on observe sur la rue, les gens qui sont dans la situation la plus critique puisqu'ils n'ont nulle part où vivre, mais aussi chacun dans nos vies, on ressent cette inquiétude-là. On dirait que c'est partout.
Ah oui, complètement. Moi, je le vis depuis des années. On dirait qu'à chaque date du mois de janvier, j'ai tout le temps peur mm-hmm. de recevoir une lettre parce que c'est comme le délai respectable oui. pour les gens qui sont expulsés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, il y a une partie qui s'appelle « Notes » de 2016 à 2023 où tu nous racontes des moments de ta vie à toi, ce que tu as vécu justement parce que tu as perdu ton logement, là.
En fait, ben, il y a des choses qui sont vraies et des choses qui sont pas vraies là-dedans. Donc, puis je trouve pas ça intéressant de décortiquer exactement ce qui est inventé ou pas, mais je dirais que c'est une fausse autofiction. Donc, mais oui, j'ai vécu. Ben déjà, j'ai dû déménager de la maison que j'avais avec mon ancien partenaire suite à une séparation. Je me suis retrouvée quelque chose d'autre et puis éventuellement la pire chose qui peut arriver, j'ai appris que l'immeuble était à vendre. c'était quelque chose qui nous préoccupait il y a pas tellement il y a 10-15 ans, mais maintenant c'est la catastrophe d'apprendre ça. Mais ce que je voulais faire au-delà de bien sûr que la question du logement, de l'itinérance, de la pression immobilière est centrale dans le roman, mais je voulais aussi réfléchir plus profondément à la notion de chez soi. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est un chez soi? Qu'est-ce qui fait que... Tu sais, je parlais plutôt du fait que j'avais voulu écrire un livre aussi qui questionnait un peu la fiction, mais qu'est-ce qui fait que ces quelques mètres cubes d'espace qui nous ont presque été arbitrairement ou par hasard attribués, on leur accorde une espèce de valeur ontologiquement supérieure à n'importe quel autre bout d'espace dans le monde. Parce qu'on a la clé, parce qu'on paye pour, mm-hmm. parce qu'on a mis nos objets là, parce qu'on a des souvenirs. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ou aux auditeurs de repasser devant un ancien appart ou une ancienne maison qu'on a habité.
Il y a de la nostalgie.
Oui, puis au-delà de ça, est-ce que ça appartient vraiment aux nouvelles personnes? Est-ce que ça ne nous appartient pas encore un peu, ce lieu-là, même si techniquement, on n'y a plus accès, on n'a plus le droit d'y aller? Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'une maison est la nôtre ou pas? C'était ce genre de choses-là aussi que je voulais regarder à travers ce livre-là.
Et ce qui est troublant, moi, que je trouvais dans ce roman-là, c'est aussi c'est justement sans-abri-là, ces gens logés-là qui se retrouvent dans la rue et qu'on prend puis qu'on amène dans des lieux pour un peu les encadrer. On sous-entend que c'est pour leur bien, mais finalement, après avoir lu le roman, c'est pas si bien que ça.
Exact. Donc, ces lieux-là...
Ça existait, des lieux je pour crois, caser. À Londres, je crois que ça existait avant.
Exactement.
Hein?
Je me suis pas... souvent, là, c'est arrivé avec l'avenir aussi. On me dit, oh, mais là, c'est incroyable ce qui se passe dans cette ville-là. Puis je répondais souvent, ben, j'ai rien inventé. Tu sais, c'est quelque chose dont je me suis inspirée. Ça s'appelait des workhouse ou des poorhouse. Ça existait pendant des siècles au Royaume-Uni, mais aussi à plus petite échelle dans toutes sortes d'autres pays. On appelait ça des asiles, des hospices, des lieux, grosso modo, où on hébergeait les gens. Parfois, ils étaient tenus de travailler, parfois non. Parfois, ils étaient libres de repartir comme ils voulaient, parfois non. Mais c'était, grosso modo, un lieu pour caser les pauvres et pour, entre gros guillemets, nettoyer les rues des corps indigents qui les encombraient, si tu veux. Donc, j'ai voulu imaginer, mais OK, si la tendance se poursuit à Montréal puis dans les autres grandes villes occidentales, si de plus en plus de gens ont pas de logis, si de plus en plus de gens doivent dormir dehors dans les lieux publics parce que il faut bien qu'ils dorment en quelque part, qu'est-ce qui pourrait arriver si un gouvernement essayait de trouver une solution rapide et radicale à tout ça? Puis c'est comme ça que je me suis dit, ben si ça existait auparavant, il y a pas de raison que, je veux dire, on a déjà des institutions où on encore, entre guillemets, case les gens, par exemple, les gens qui sont très malades, les gens qui sont pas capables de prendre soin d'eux-mêmes, les personnes très âgées, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Je dis pas que ces lieux-là ont pas de raison d'être, je dis que ils existent, que notre société a déjà accepté que certaines personnes doivent vivre dans des institutions, et là, je parle même pas des centres de détention, des prisons, des pénitenciers. Donc, je pense que le pas n'est pas si grand que ça.
As-tu trouvé une solution, toi, à ce qu'on pourrait faire pour améliorer ou pour ne pas se rendre là? Parce que j'ai l'impression que tu as dû faire une panoplie de recherches pour écrire ce livre-là.
Tout me mène à une seule réponse. Puis c'est la même que quand je me suis questionnée sur les changements climatiques. Il faut abolir le capitalisme, Amélie. Il n'y a pas d'autre solution.
Et Catherine, ton écriture, elle est vraiment très précise, mais à la fois poétique, et c'est ça qui nous rentre dans le cœur quand on lit « Peuple de verre », puis même dans les autres, là. Est-ce que tu travailles très, très fort, justement, pour vraiment…
Très fort, très fort. Ce qui a été particulier avec « Peuple de verre », c'est que c'était la première fois, ou en tout cas sur la durée d'un roman, j'écrivais à la première personne. D'habitude, j'ai des narrateurs omniscients ou des narrateurs personnages. Là, c'était tout était raconté au jeu du point de vue de l'héroïne Sidonie. Et ça a été confrontant un peu au début. Ça a été une adaptation. J'ai l'habitude d'être vraiment maître de la façon dont j'écris, de mon style et tout ça. Puis là, il fallait que je tienne compte de la personnalité du personnage, puis comment elle s'exprimait, puis que je trouve sa voix à elle. Je voulais pas pour autant faire de compromis sur la façon dont moi j'aime écrire. Donc, ça a été un travail. Ça a été un travail de s'ajuster puis de trouver le ton juste, mais une fois que je l'ai trouvé, j'ai eu beaucoup de plaisir, puis en fait, ça a passé par l'humour. Je savais dès le départ que Sidonie était une personne assez cynique, sarcastique, cinglante, mais je pense que c'est une fois que je lui ai permis d'être drôle, de faire des blagues, même si c'est des blagues vraiment grinçantes, que ça a un peu donné tout son souffle à sa voix.
Et la structure, parce que le roman, au début, on lit Sidonie dans son travail de journaliste, puis après, on comprend qu'elle est justement dans cet immeuble-là où elle est, ben pas enfermée, mais pas loin, là.
Mm-hmm.
Et on comprend pas comment elle a pu se rendre là, parce que c'était une fille qui gagnait bien sa vie, qui était presque une vedette en tant que journaliste. Oui. Moi, je trouvais que c'était une super idée, là.
C'est ça, parce que dans le fond, tout le roman suit l'espèce de l'énigme qu'on veut résoudre, je crois, comme lecteur. C'est pas juste comment la société en est arrivée là, mais c'est aussi comment elle a pu se dégringoler d'aussi haut.
Mm-hmm.
Quand j'avais la jeune vingtaine, j'ai travaillé puis j'ai fait du bénévolat dans un centre pour personnes itinérantes âgées. C'était la clientèle cible, des gens de 55 ans et plus. Et dans leurs histoires, une des choses qui me fascinait, c'était ça. On a l'idée que toujours les itinérants, c'est des personnes qui ont, je sais pas, qui sont nées dans la pauvreté, qui ont pas. Puis parfois c'est vrai, mais il y avait des gens qui étaient là, qui avaient été professeurs d'université, qui avaient eu leur propre compagnie, qui étaient nés dans des grosses maisons à Westmount, puis qui par un concours de circonstances, par la maladie, par des malheurs qui leur étaient tombés dessus, s'étaient retrouvés dans la rue. Donc, c'est ça que je trouvais intéressant de montrer. Puis, je pense qu'il faut pas le perdre de vue non plus quand on croise ces personnes-là dans la rue. C'est pas parce que ils sont forcés de mendier aujourd'hui que ils ont jamais été en situation de pouvoir, qu'ils ont jamais connu des grands succès, des grandes réussites dans leur vie là, pas
d'avoir
loin de là.
D'avoir l'empathie pour ces gens-là, puis se mettre à leur place, là. Puis juste un tout simple sourire, ça peut changer leur vie là.
Tout à fait.
Complètement. Et moi, c'est ta page couverture que je trouve exceptionnelle. Est-ce que c'est toi qui l'as choisie, qui est fait par Anna Katoba.
Anna Katoba, qui est un artiste japonais qui travaille, il faut le dire, avec des images de synthèse. Il travaille avec de l'intelligence artificielle et des photographies traditionnelles. Il fait un mélange des deux. C'est évidemment Antoine Tanguay qui a déniché, qui a découvert cet artiste-là. Puis ensemble, on a regardé, il y a des dizaines et des dizaines d'œuvres d'Anna Katoba qui existent et qu'on peut voir sur Internet. Puis à chaque fois que j'envoyais une nouvelle, je disais « Ah, c'est celle-là! Ah, c'est celle-là! C'est elle, c'est elle! » Mais quand on a vu celle qui est devenue la couverture, là, c'était, il n'y avait plus de doute, là, c'était évident que c'était elle qui allait devenir.
Ça l'écrit très, très bien, je trouve, ton roman, cette page couverture-là.
Oui, effectivement.
Si tu me permets, Catherine, on s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de ton ou de tes coups de cœur littéraires.
Ici Sophie Lorrain. Vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
On est maintenant rendu au segment des coups de cœur littéraires de mon autrice invitée de la semaine, Catherine Leroux. Catherine, qu'est-ce que tu as envie de présenter aux auditeurs?
J'ai envie de parler de deux autrices anglophones. Une que j'ai découverte parce qu'on l'a publiée chez Alto, c'est Lauren Groff, qui est une des... elle est très connue, là. Je pense qu'il y a sûrement des auditeurs qui ont déjà entendu parler d'elle. C'est une Américaine. Elle a écrit Les Furies. Elle a écrit Matrix. Et là, le dernier que j'ai lu s'appelle The Vaster Wilds. Et moi, j'admire les auteurs qui sont capables de raconter une histoire, mais on dirait que l'histoire est presque secondaire. C'est la manière dont ils racontent, c'est la façon dont leur style, dont la manière dont ils composent les phrases a quelque chose de presque hypnotisant ou envoûtant. Et elle a vraiment cette habileté-là, ce talent-là pour... Il y a une vigueur dans son écriture, une poésie, puis aussi toujours une espèce de façon d'aller toucher presque un niveau philosophique. Ces personnages sont beaucoup en relation avec l'absolu, avec la transcendance, mais d'une façon qui est très très accessible là, comme lecteur. On n'est pas dans la grosse théorie lourde. Ces personnages sont souvent des femmes qui ont des voix, qui ont des regards, des points de vue extrêmement particuliers. Puis en plus, elle a une démarche d'écriture qui est complètement folle, cette femme. Elle me fascine.
Est-ce que c'est quoi cette démarche d'écriture? Je suis un peu curieuse.
Alors, elle écrit plusieurs romans à la fois. Elle a dans son bureau plusieurs tables, puis chaque table est un projet différent. Puis une fois qu'elle a terminé un premier jet de son manuscrit, elle le met dans une boîte et elle ferme cette boîte-là à clé et elle jette la clé. Et elle ne le rouvre plus jamais et elle réécrit une deuxième version de son texte à partir de son souvenir de la première.
Wow.
Ce que je trouve, je peux pas imaginer faire ça, là. Je veux dire, on travaille tellement fort sur chaque phrase, même quand on écrit le premier jet, que jeter ça puis ne plus jamais le regarder, je trouve ça paniquant juste d'y penser, mais elle, c'est comme ça qu'elle fait.
Wow! Et est-ce que tu as traduit un de ses livres?
Non, j'ai pas traduit un de ses livres. Elle est traduite en France en ce moment.
Ah, OK, parfait. Et l'autre autrice dont tu voulais nous parler?
Donc, Martha Bailey, qui est une autrice canadienne-anglaise, une poétesse et romancière, qui a un projet littéraire extrêmement intéressant, vraiment unique, différent de tout ce qui se fait ailleurs. J'ai toujours aimé ses livres, puis là, j'ai lu le dernier qui s'appelle « There is no blue ». Encore une fois, j'ai l'air de prêcher pour ma paroisse parce qu'on va la publier chez Alto, mais que voulez-vous? Alto publie des bons auteurs. Elle a écrit un livre, donc c'est ça, « There is no blue », c'est un livre qui parle de la mort de sa mère, de la mort de son père, et ensuite de la mort de sa sœur, mais surtout de la vie de sa sœur, qui est une artiste, une femme d'une grande intelligence, qui a souffert de schizophrénie toute sa vie et qui a fini par s'enlever la vie. Là, je divulgue rien puisqu'on sait tout ça dès le début. Et elle avait, au sujet de sa famille, des souvenirs, des idées, elle a lancé des accusations à l'endroit de certains membres de sa famille. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce livre-là, c'est un mémoire avant tout, mais ça se lit presque comme une enquête, parce qu'on est avec l'autrice, puis on veut comprendre, on veut savoir, mais est-ce que tout ça s'est réellement passé? Puis comment, quand on a un membre de la famille qui est, on va dire, peut-être un témoin non fiable ou quelqu'un qui a un point de vue puis une compréhension du monde qui est radicalement différente de la majorité, comment on compose avec ça? C'est vraiment un livre exceptionnel, puis tu sais, il y a de ces livres qu'on lit en 48 heures, puis on est comme, ah, mais je comprends pas comment ça se fait, je l'ai lu à toute vitesse, j'étais pas capable de le lâcher, mais c'en est un, ça aussi.
Ah, c'est intéressant. Et la lecture, est-ce que ça occupe une grande place dans ta vie, ou j'ai l'impression qu'il doit manquer de temps pour que tu puisses assouvir ce besoin-là?
Ah, oui, mais je manque de temps, je lis beaucoup, je lis plusieurs heures à tous les jours, par mon travail, puis par intérêt aussi, mais c'est certain que... C'est ça, une fois que j'ai passé la journée à écrire, à traduire, à lire, à faire de l'édition, rendu à la fin de la journée, j'ai besoin de faire aussi un peu autre chose que de lire.
Je peux comprendre. Et là, qu'est-ce qui t'attend sur ta pile de lecture, là?
Qu'est-ce qui m'attend sur ma pile de lecture? Eh bien, j'ai Frappe à bord de Mireille Gagné, que j'ai très, très hâte de lire. J'avais beaucoup aimé Le Lièvre d'Amérique, puis moi... Frappe à bord, c'est un de mes mots préférés de la langue française. Je trouve que c'est... Je sais pas qui a inventé ce mot-là pour parler d'une mouche, mais il est extraordinaire. Fait que juste le fait que ça s'appelle comme ça, ça m'excite. Donc, j'ai très, très hâte de lire ça.
Mais merci beaucoup, Catherine, pour les belles suggestions. On s'arrête pour la chronique littéraire et on se retrouve pour la conclusion de l'émission.
Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield.
C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Suzanne Dion. Bonjour Suzanne, vous allez bien?
Oui, très bien.
Et on commence ce mois-ci avec « Comment il faut aimer » de Lisa Moore, publié chez Boréal.
Ce récit se passe à Terre-Neuve. C'est pas fréquent là, qu'on a des récits qui se passent à Terre-Neuve. C'est le 7e roman de cette autrice qui est publié chez Boréal. Il nous raconte l'histoire d'une famille, un couple, leurs parents, leurs deux enfants, frères et sœurs, et une jeune fille qui a été retirée de la garde de sa mère, jugée à raison irresponsable, et qui est élevée par une dame qui vit en face de ce couple et qui, dans son jeune âge, est plus ou moins intégrée à la famille. Alors, l'histoire de ce beau monde est racontée alors que le fils de ce couple est entre la vie et la mort après avoir été poignardé et laissé sur un banc de neige. Une très grosse tempête de neige fait rage et la mère du garçon, au chevet de son fils, se rappelle diverses anecdotes de sa propre vie et de celle de son fils. L'histoire n'est pas racontée de façon chronologique. On apprend ce qui est arrivé à chacun des personnages par bribes, dans un certain enchevêtrement, à l'intérieur duquel on se retrouve bien quand même. Les personnages sont mis en lumière chacun à leur tour et l'autrice nous présente des moments précis de la vie de ces gens-là, décrits avec des petits détails qui expriment bien qui ils sont. La grande caractéristique de ces gens, qui sont tous imparfaits, est qu'ils sont généreux. Ils ne se laissent pas tomber quoi qu'il arrive. Il y en a qui sont mieux nantis que d'autres, à tout point de vue affection, chaleur humaine. Alors, les mieux nantis partagent et c'est ce qui leur permet de faire face aux tempêtes.
Ah, bien, on rappelle le titre « Comment il faut aimer » de Lisa Moore. Et là, on y va maintenant avec « L'amour a dissous », le roman sentimental québécois de l'après-guerre de Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren, publié chez Septentrion.
C'est un ouvrage historique assez amusant au sujet des petits romans qui se vendaient 10 sous, puis ensuite 12, puis ensuite 25 sous, et qui ont été de véritables succès d'édition entre les années 1940 et 1965. Ces romans de 32 pages, imprimés sur un papier bas de gamme, vendus selon une mise en marché racoleuse grâce aux images de couverture, qui sont reproduites en grand nombre dans ce livre, donnent une bonne idée de ce genre de roman sentimental. dans le même format et même type de diffusion. Il y avait aussi des romans d'aventure comme X-13, qui fait l'objet d'une série mm-hmm. actuellement, et qui s'est vendu à 25 millions d'exemplaires. L'illustrateur André Larchevêque aurait, en une douzaine d'années, réalisé 6000 illustrations pour différents éditeurs.
Wow.
Les reproductions de ces illustrations constituent vraiment une partie très intéressante de ce livre. Alors, c'est souvent un couple qui est sur le point de s'embrasser. Et voici quelques titres parmi les milliers qui ont été publiés. « L'infâme enjôleuse »,« L'île des amants », « Le train qui conduit au mal », »,« La petite diablesse », »,« La vendeuse de caresses ». Alors, ce sont toujours des romans d'amour où on mélange romantisme et une intrigue qui est aussi moralisatrice.
En as-tu déjà lu à l'époque, de ces livres-là?
Oui, moi j'en ai déjà lu, effectivement. Oui, j'ai déjà vu ça, oui. Et l'un de des principaux éditeurs indique qu'il publie des récits propres de l'amour sain, une lecture pour tous, le tout dans un cadre vraiment canadien. Alors ça aussi, c'était important, là. Il se distinguait évidemment des traductions qui venaient d'ailleurs. Devant la censure, là, il fallait quand même montrer patte blanche, alors les éditeurs faisaient attention. Et les auteurs de ce livre ont analysé ce corpus avec minutie. Alors on peut retrouver l'esprit du temps, les mœurs qui changent, l'évolution des aspirations des femmes. En fait, les éditeurs puis les auteurs répondaient et suivaient de près les préoccupations de leur lectorat.
Ah, mais c'est intriguant. Ça s'intitule « L'amour a dissous, le roman sentimental québécois de l'après-guerre » de Marie-Pierre Luneau et Jean-Philippe Warren. Et là, on change complètement de catégorie. Marcel Ferron, « Une vie colorée » de Marie Bardidjan, publié chez Édito Jeunesse.
Voilà un beau livre avec des reproductions de toiles et des fragments de tableaux de Marcel Ferron, écrits pour les enfants. Il y a de courts textes sur sa vie, mais surtout des phrases ici et là avec les tableaux pour indiquer les thèmes, la joie, l'amour de la vie, la liberté, qu'elle exprime par le mouvement et les couleurs avec son enthousiasme, sa fantaisie, sa fougue. L'autrice a fait aussi des livres pour enfants sur Riopelle et sur Pélan. C'est une belle collection. Ce numéro aussi est un feu d'artifice.
On rappelle le titre, Marcel Ferron, Une vie colorée de Marie Bardidjan, publié chez Édito Jeunesse. Et là, on poursuit maintenant avec Odette Froyard en trois façons de Isabelle Monin, publié chez Gallimard.
Il faut savoir écrire pour raconter cette histoire, puis c'est le cas d'Isabelle Monin, qui tente, 30 ans après la mort de sa grand-mère, de connaître qui était cette femme secrète, dont elle ne sait presque rien, même si elle l'a fréquentée régulièrement pendant sa jeunesse. Alors, sa quête commence pendant la pandémie. Les rencontres et les sorties sont interdites et elle se met à réfléchir sur cette Odette Froyard, sa grand-mère paternelle, qui parlait très peu, jamais d'elle-même, qui travaillait continuellement, ne s'interrompant que rarement pour lire des romans. Elle fait d'abord le tour de ses souvenirs, interroge son père, qui n'en sait pas beaucoup plus qu'elle, parce que comme ses frères et son père, il la voyait comme une servante, dans le fond, qui faisait les commissions, la cuisine, le ménage, ne se plaignait jamais, et pourtant ses fils vont s'éloigner d'elle. Alors, elle finit par avoir quelques bribes d'informations. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir du talent pour écrire ça, parce que les informations arrivent vraiment...
Au compte-gouttes.
Oui, au compte-gouttes. Elle finit par avoir quelques bribes d'informations d'un cousin et d'une tante de son père, ce qui l'amène sur quelques pistes qu'elle explore sur différents sites. Alors, c'est toujours la pandémie, c'est donc avec son ordinateur qu'elle peut poursuivre ses recherches. Ses récoltes sont laborieuses, minuscules parfois, et en même temps, elle découvre quelques trucs importants, ce qui va lui permettre à la fin du livre d'imaginer la vie de cette Odette Froyard, de comprendre ses silences, et cette partie est très émouvante. Les gens ordinaires vivent parfois des vies très romanesques.
On rappelle le titre « Odette Froyard en trois façons » de Isabelle Monin. Et là, on termine avec « On est de son enfance » de Robert Lalonde, publié chez Boréal.
C'est un autre carnet de Robert Lalonde qui écrit au cours des des saisons après ses randonnées dans la campagne avec son chien, écriture entrecoupée de ses lectures. Alors, c'est calme, on le lit tranquillement, on revient sur certains passages, on se promène avec lui dans la nature et on s'intéresse aux auteurs qu'il nous cite aussi. Il nous en dit juste ce qu'il faut pour nous intriguer. Cette fois-ci, dans ce cahier-ci, il fait des allers-retours dans son enfance douloureuse, se remémore les aventures de cette enfance dans la nature, qui est toujours restée un refuge et une consolation pour lui. Il la connaît bien, la nature, il sait le nom des arbres, des plantes, des oiseaux. Ça donne un vocabulaire riche, mais aussi un vocabulaire joyeux. En fait, il n'y a que son chien qui n'est pas nommé là-dedans. Pourtant, il est toujours là. C'est une lecture réconfortante, un livre que l'on garde pas trop loin pour y revenir de temps en temps et marcher avec lui dans les collines des Appalaches ou sortir de la maison simplement pour regarder le ciel.
Ah, intéressant. Rappelle le titre, On est de son enfance, de Robert Lalonde. Merci beaucoup, Suzanne, pour les belles suggestions.
À la prochaine.
Ici Audrey Wilhelmy, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon autrice invitée de la semaine, Catherine Leroux. Catherine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines semaines, sûrement la promotion de Peuple de Verre?
La promotion de Peuple de Verre, je vais être au Salon du livre de Québec début avril, au Métropolis Bleu à la fin avril. Et en mai, je vais en France, je vais au Festival Étonnant Voyageur à Saint-Malo, qui est comme...
T'es allée pour l'avenir, je crois, puis ça avait bien fonctionné.
J'étais allée pour l'avenir, ça avait été merveilleux. Tu sais, Saint-Malo, c'est juste un lieu absolument magique, là, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner.
Ah, puis d'aller à la rencontre des lecteurs, puis est-ce que éventuellement Peuple de Verre va être disponible en Europe?
Je ne sais pas, je l'espère de tout mon cœur, mais ça, c'est pas, malheureusement, c'est jamais l'auteur qui a le contrôle là-dessus, parce que si c'est nous qui avions le contrôle, nos livres seraient disponibles dans toutes les langues, dans tous les pays.
Et Catherine, est-ce que tu es active sur les réseaux sociaux pour les gens qui voudraient te faire des commentaires suite à la lecture de Peuple de Verre?
Certainement, je suis une modérée des réseaux sociaux, donc je ne suis que sur Facebook, mais on peut me trouver facilement.
Catherine Leroux, tout simplement?
Tout simplement.
Ben, merci beaucoup, Catherine, d'être venue à mon micro.
Merci, Amélie, de m'avoir reçue.
Et j'ai une copie de Peuple de Verre à faire tirer. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site Internet de l'émission samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook, Twitter, Instagram ou sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine. À la semaine prochaine.